France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
On nous demande d'en faire toujours plus, c'est là où on est dans la maltraitance institutionnelle.
C'est un des derniers plaisirs du grand âge, voilà. C'est ce plaisir de la table. Donc on leur donne cette nourriture qui souvent est vraiment médiocre et on s'en fout.
J'essaie de préparer des petites choses qui leur plaisent, une tiramisu, alors les abats. Beaucoup de gens ne savent pas préparer ça, ben alors prépare des rouillons, des choses comme ça.
On ne part pas de chez soi comme ça.
Je suis bien là.
La personne, elle a des souhaits, elle a des désirs, prenez en compte, mais pas suffisamment en fait.
Depuis qu'elle a quitté son domicile, elle a perdu près de 20 kilos et moi, quelques grammes d'humour, racontait Frédéric Pommier le 8 décembre 2017 sur France Inter, en évoquant pour la première fois le sort de sa grand-mère maltraitée en EHPAD. Depuis, il a dédié un livre à Suzanne et continue de témoigner parce que, ça et là en France, explique-t-il, pas partout heureusement, on maltraite nos vieux dans une indifférence quasi générale. L'indignation de Frédéric Pommier est partagée par de nombreuses familles, par des professionnels également. Début 2018, les salariés du secteur de l'aide aux personnes âgées ont massivement participé à un mouvement de grève. La ministre Agnès Buzyn a annoncé quelques mesures, comme le renforcement de la présence d'infirmières la nuit dans les EHPAD, et une grande loi sur la dépendance doit être présentée à l'automne. Mais en attendant, les journées restent chronométrées pour les soignants. Ils sont 6 pour 10 résidents en moyenne et peinent à offrir aux personnes âgées l'écoute et les soins dont elles ont besoin. Les maisons de retraite médicalisées ne font pas rêver, mais quand le corps s'use ou quand la tête ne suit plus, le domicile peut devenir un lieu hostile. Quelle solution alors pour toutes les Suzanne qui voudraient continuer de bien manger, de vivre à leur façon et de voir leur intimité respectée? Chez soi ou en EHPAD, vieillir dans la dignité, c'est un reportage signé Maxime Fayol. Dans Grand Reportage, le magazine de la rédaction, nous recevons Dominique Libaud. Bonjour.
Bonjour.
Vous présidez le Haut Conseil au financement de la protection sociale et à l'issue de la grande concertation nationale Grand Âge et Autonomie, vous avez remis à Agnès Buzyn, ministre de la Santé et des Solidarités, votre rapport sur la prise en charge de la dépendance. Nous reviendrons avec vous sur certaines de vos préconisations après avoir écouté le reportage de Maxime Fayol. Maxime, plus de 600 000 personnes âgées dépendantes vivent aujourd'hui en EHPAD, mais c'est rarement un choix. La plupart des Français aimeraient rester chez eux le plus longtemps possible.
Oui, c'est vrai que c'est pas toujours simple de rester à domicile. Il faut adapter son logement, il faut parfois s'aider d'un auxiliaire de vie. Ça reste quand même le mode qu'on privilégie pour la fin de vie, que ce soit du côté des personnes âgées ou des familles. Le problème, c'est qu'aussi rester plus longtemps à domicile, ça retarde l'entrée en EHPAD et ça complexifie aussi le travail des soignants.
Alors tout de suite, vous nous emmenez à Sceaux, dans les Hauts-de-Seine, chez Michel et André Le Guyader, qui bénéficient d'une aide quotidienne.
Je suis Jean-Pierre Amos, je suis auxiliaire de vie à domicile, indépendant, j'ai 45 ans et j'exerce ce métier depuis 15 ans. Et j'ai fait l'interview Gilets jaunes, monsieur Le Guyader.
Je viens vers vous parce que aujourd'hui, je voulais vous poser des questions sur l'actualité.
Ah bon ?
Ouais. Je voulais savoir ce que vous pensez des Gilets jaunes.
Et vous jouez aux journalistes en fait avec eux.
Ah oui. Il y a des moments, oui. C'est un peu de l'orthophonie, hein. Les faire travailler, faire réfléchir. Et on est dans leur vie en fait. On fait partie de leur quotidien. On fait partie du cadre.
Est-ce que vous êtes d'accord avec eux ?
Oui, je suis d'accord avec eux. Ils ont galéré, ils connaissent les pas du docteur.
Je le connais depuis quelques années. Et c'est un monsieur, il fait beaucoup d'humour. Monsieur est atteint de la maladie d'Alzheimer, 93 ans. Madame est plus jeune, un peu plus jeune. Et j'y viens quotidiennement faire la toilette de monsieur et l'aider un petit peu. Parfois, il y a des petites tâches à faire. Un peu de cuisine ou aller à la pharmacie ou même parler. Elle a besoin de parler, d'échanger, donc elle est à côté de moi, je fais mon travail, elle sait ça et elle me raconte sa vie, qu'est-ce que t'en penses.
Mais le grand soir, voilà. Lorsque tu pleures.
Bon, on va aller voir ça.
D'accord.
Quand tu as peur dans ta chaloupe, c'est moi qui pars pendant des heures.
Bonjour.
nous sommes.
C'est pas tout seul.
Excusez-moi, je peux changer mes habitudes.
Bonjour madame.
Bonjour monsieur.
Je m'appelle Maxime.
Je m'appelle madame Le Guéver.
Bonjour, bon,
Michel.
Michel.
Voilà, Michel.
J'ose pas laisser mon mari tout seul, des fois qu'il s'échappe. Non, non, mais c'est pas... Je plaisante, non, mais je dis des bêtises, alors arrêtez. Non, mais vous allez voir mon mari, il est adorable.
Bon, ah, voilà. On va le réveiller. Il y a quelqu'un?
Quelqu'un, oui.
Bonjour, monsieur Guéver.
Bonjour, jeune homme.
Ça va? On va se réveiller?
Oui, c'est bon.
Hein?
C'est bon.
Ouais,
et toi, t'es quoi, toi?
Moi, je suis journaliste.
Journaliste?
Oui.
Ah, c'est bien, tu vends des journaux.
Je pense que le passage de Jean-Pierre tous les matins, ça maintient mon mari en forme. Parce qu'une toilette à une douche tous les matins, un rythme comme ça, ça agrémente la vie, quand même.
Non, puis il passe du temps, en plus.
Ah bah oui, et puis il plaisante avec lui.
On fait une bonne équipe, André.
Oui.
Vous préférez être ici qu'en maison de retraite, c'est ça qu'il essaie
là,
de demander.
Et là, vous êtes quoi, vous?
Moi, je suis journaliste.
Vous êtes une star, André.
Oui.
Hein, je suis votre agent.
C'est la lutte, finalement.
Oh non, par la fenêtre. Non, mais ça, c'est Jean-Pierre qui lui a appris.
Mais non.
Si.
J'en prie, mais arrêtez.
Si, Jean-Pierre.
Je fais pas de politique au travail. Mais voilà, il y a cette curiosité. On ne sait pas. Il y a depuis 3 mois.
Depuis les Gilets jaunes,
peut-être, je ne sais pas.
Oui.
Monsieur chante l'international.
2-3 ans.
Que je suis chez vous, oui. Mais là, on cherche à savoir pourquoi vous chantez l'international.
Pourquoi ?
Vous chantez cette chanson-là.
Ben, je vais chanter autre chose.
Ben, vous pouvez changer, oui. Ça serait bien parce que madame, ça l'énerve.
C'est la lutte finale. C'est là.
Ah, c'est dur la vie, hein, André.
Voilà, là, il mérite d'aller à l'EHPAD. Non, non. Bon, moi, je pense... On ne part pas de chez soi comme ça. Hein. On laisse un peu de soi, puis on se dit là, c'est foutu, hein. C'est foutu. Bon, quand on vieillit, malheureusement, on perd tous ses amis, hein, les uns après les autres, alors ça... Bon, alors, on a ça, on est chez nous.
Ah, c'est dur, il faut être entouré, en fait.
Bah oui, mais j'ai beaucoup d'enfants, j'ai 4 enfants, j'ai 10 petits-enfants, mais ils ont tous leur vie, leurs occupations, les petits-enfants, bon, alors... Vous laissez comme ça.
Et vous iriez pas chez l'un d'entre eux?
Ah non. Aucun.
Pourquoi?
Parce que déjà, je n'aime pas embêter, d'abord, et puis j'ai peut-être pas toujours été très gentille dans ma vie, alors ils me le rendent. Bon, les gens qui n'ont pas de problème dans les familles, eh ben, qui se présentent. Et je dis bravo. Mon mari avait une petite affaire, mes fils l'ont pris, et puis ben, soit ça a été fait dans les règles, mais là, moi vraiment, ça me touche énormément, là, mes problèmes familiaux, quoi. Quoi, monsieur?
Ça va, tout va
on
bien?
On n'écoute pas aux portes, s'il vous plaît.
Mais j'écoute pas, je n'écoute pas.
Écoutez tout.
On va les cuire, c'est tout?
Ah oui, ça va se cuire.
Vous faire une petite purée de patates douces,
oui? Oui, j'ai du poisson. Ça, il vient pour mon mari, mais il m'apporte beaucoup, hein, parce que des fois, je suis très viole.
Auxiliaire de vie, ça veut tout dire. On les auxilie dans tout ce qui dans leur vie du quotidien. On fait partie de la faire partie de la famille, c'est un grand mot. Hein. Je j'aime pas ce terme-là, mais on fait partie de leur environnement, voilà. Et c'est ça qui me plaît. C'est vrai que c'est un métier très prenant. Quand on l'aime, je pense que c'est comme tous les métiers. Hein. Quand on l'aime, ben, on y passe beaucoup de temps et c'est vrai que c'est un peu mon problème.
On s'oublie un peu.
Oui. C'est vrai, un petit peu. Après, il y a aussi une chose que les personnes âgées adorent, c'est qu'on a un rituel après. Et ce rituel, ça les rassure et ça, c'est très important. Voilà.
Et vous faites à manger tous les jours pour toutes les personnes dont vous occupez?
Non, ici c'est exceptionnel. Ça, mais on essaie de faire, j'essaie de préparer des petites choses qui leur plaisent. Ils adorent les abats. Beaucoup de gens ne savent pas préparer ça, ils leur préparent des rognons, des choses comme ça. Voilà, on attend Claude et vous. Et là, on va aller revoir
M. Guéver,
voir
s'il a fini. Je vais pas me balader dans la rue, là.
Avec moi?
Mais non, je vais pas marcher.
Mais si, ça va vous faire du bien.
Je suis bien là.
Moi, je vais finir de ranger.
Je suis journaliste.
Le journaliste?
Oui.
Ah bon? Alors, ouais. Qu'est-ce qui joue?
Moi, je suis venu vous voir.
Ah oui, c'est bien. C'est un drôle de mec. Hein,
c'est vrai. Bon, André, au revoir. Ça va aller?
Tu t'en vas?
Bah, on va continuer. Je continue ma journée. Je reviens demain.
Qu'est-ce que tu fais?
Bah, j'ai une autre dame à prendre soin, là.
Comment?
Je vais faire déjeuner une dame.
Elle en a de la chance.
Je vais faire déjeuner une
dame, ouais.
Moi, je sais pas ça.
Qu'est-ce qu'elle mange?
Ah, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle va manger? Va manger côtelette d'agneau avec une poêlée de endives.
Ah, bah, dis donc.
Ça vous dit ça? Vous aimez les endives poêlées, André?
Les
endives poêlées, ça vous dit?
Non.
Un vieux coup.
Bon, vous irez voir si la purée vous convient.
Oui,
que je vous ai fait.
Mon ami.
Bonne fin de journée.
Bon, Jean-Pierre, à demain.
À demain matin.
Demain, c'est quel jour?
Demain, c'est quel jour?
Parfait.
Vers
11h.
À demain, André.
Oui. À demain.
Bonne fin de journée.
Merci.
Vous voulez que je revienne demain?
Oui.
D'accord. Il se contrôle moins. Il vous répète la même question. Ça se dégrade un petit peu. Mais bon, ça va, ça reste encore. Mais oui, ça évolue gentiment.
Vous pensez qu'à un moment, quand même, il faudra essayer de le mettre dans un EHPAD, dans un établissement un peu plus spécialisé ou quoi?
Après, c'est à la famille, à madame de décider. Si madame souhaite le garder à la maison, je ferai tout ce que je peux pour qu'il reste. On verra bien comment ils évoluent, voilà. Je peux pas... Ça reste personnel, ça, après. C'est eux qui décident. Moi, tant que je peux les aider, je le ferai. Mais si on peut le garder à la maison, oui, c'est pour moi, c'est l'idéal. C'est l'idéal.
Bon, bah là, vous continuez votre tournée?
Oui, là, on remet la trottinette en route. Et on repart.
Chaque matin, Jean-Pierre passe près d'une heure chez les Le Guyadère, un temps que les soignants en EHPAD, eux, ne peuvent pas consacrer à leurs résidents. Un manque de temps qu'il dénonce depuis de nombreuses années.
Donc bonjour, je m'appelle Solène Le Baron Le Floc. Donc je suis secrétaire nationale déléguée aux EHPAD de l'Union fédérale autonome de santé, avec en première fonction mon métier d'aide-soignante.
Comment vous vous sentez aujourd'hui dans votre métier d'aide-soignante? Est-ce que vous êtes satisfaite des conditions dans lesquelles vous faites votre métier?
Non. Non, en fait, on n'est plus le soignant lui-même, hein, pas que moi, mais le soignant lui-même n'est plus satisfait de ses conditions de travail, puisque nos conditions de travail ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, en fait, quand les personnes arrivent en maison de retraite, ce sont souvent des personnes très dépendantes, ou physiquement, ou mentalement. Une des problématiques aussi de notre métier, c'est que on est le même nombre de personnes pour le même nombre de résidents. Sauf que les pathologies ne sont plus du tout les mêmes et notre charge de travail n'est plus du tout la même non plus. Il faut du personnel en plus, tout simplement.
Et justement, vous êtes en sous-effectif dans les établissements ?
Oui, oui, oui. C'est justement une chose que l'on réclame en intersyndicale depuis déjà plusieurs mois. Hein. C'est de pouvoir obtenir le 1 pour 1. Au niveau du personnel, c'est-à-dire un personnel pour un résident. Aujourd'hui, on est à 0,6. Ce qui est très très faible. Il manque énormément de personnel actuellement en maison de retraite pour qu'on puisse faire raisonnablement et convenablement notre travail. La problématique aujourd'hui, c'est l'absentéisme aussi. C'est un cercle vicieux dans le soin, en fait. Et l'absentéisme, elle vient de quoi? Elle vient tout simplement des collègues qui s'arrêtent, des fois, mais qui s'arrêtent tout court, hein, qui démissionnent. Des collègues qui ont un burn-out, quoi. Le burn-out de se faire insulter, de se faire taper, de... Voilà. C'est compliqué, tout ça. C'est compliqué. Ouais. Je prends un exemple concret. Quand on doit être trois sur un service lourd, avec une vingtaine de résidents, où on doit les faire manger, où on doit donc les aider à s'habiller, les aider à se préparer, faire les soins divers possibles dont ils ont besoin pour être bien dans leur peau, pour être soignés, et que finalement une ne vient pas, on se retrouve à deux. Donc à deux, à devoir faire le même travail. Lui, le résident, il n'a pas demandé à ce qu'on soit que deux. Donc nous allons faire tous les efforts possibles pour obtenir le même résultat que si on avait été trois. Sauf qu'à deux, c'est le soignant qui s'épuise. Et le soignant, derrière, c'est pas un super héros non plus. Voilà, ça reste aussi un être humain. Et un être humain qui, comme je le disais, a besoin de reconnaissance. Donc déjà, la reconnaissance, on va dire, spontanée de notre travail. Hein, de peut-être aussi une reconnaissance financière, parce que nous sommes pas chers payés, mais vraiment pas chers du tout, pour l'importance de notre métier.
Pourtant, dans certains établissements, on a pu voir des cas de maltraitance. C'était encore récemment dans l'actualité. Ces maltraitances, est-ce qu'elles sont aussi dues à ces conditions de travail ?
Alors, moi, ces maltraitances, je ne les excuse pas du tout. C'est quelque chose qui n'aurait jamais dû exister. Nous avons un métier où nous devons être maîtres de nous-mêmes. Voilà. On nous tape, on ne rend pas le coup. On nous griffe, on nous insulte, on ne rend pas les insultes.
Et vous avez vraiment des résidents qui vous griffent, qui vous insultent ?
Ah oui. Oui. Mais c'est pas de leur faute, en fait. C'est leur démence qui fait ça. C'est pour ça qu'on doit être maître de soi, finalement. Après, le fait de subir ça tous les jours, je n'excuse pas le comportement maltraitant qu'ont pu avoir certains soignants envers ces personnes. Aujourd'hui, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi nous n'étions pas assez nombreux pour pouvoir passer la main, en fait. Sauf que quand nous sommes en sous-effectif, voire des fois en sous-sous-effectif, parce qu'il y a de l'absentéisme, on n'a plus la possibilité de passer la main. Et là, ça devient très compliqué pour le soignant. On est à la limite, on est au burn-out. Hein. Et la maltraitance fait partie du burn-out. On nous demande d'en faire toujours plus, avec déjà moins de personnel, moins de moyens. C'est compliqué. C'est là où on est dans la maltraitance institutionnelle.
Notre pays ne remplit pas son devoir à l'égard de ses aînés les plus faibles. Malgré l'engagement des personnels, la situation est parfois indigne.
Ce constat, il est tiré par Brigitte Bourguignon, c'est la présidente de la commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale. Jean Arcelin, lui, est arrivé aux mêmes conclusions. Il a dirigé des EHPAD pendant 3 ans dans le sud de la France après une carrière en tant que concessionnaire automobile. De son expérience en EHPAD est né un livre intitulé « Tu verras maman, tu seras bien ».
Voilà. Donc, en fait, quand j'étais gamin, j'étais fasciné par deux choses, par les voitures et par ma grand-mère qui m'a élevé, que j'adorais. Et voilà, donc je me suis occupé des voitures et des grands-mères. Je crois que le business libéral a une limite que j'ai peut-être découverte, c'est le soin de personnes âgées vulnérables. Parce que la recherche de profit est incompatible avec le soin de personnes âgées dépendantes, vulnérables, incapables de manifester leur insatisfaction.
Il y a une vraie logique d'économie sur le personnel dans les EHPAD ?
Il y a une logique d'économie surtout qui est assez difficile à voir s'opérer concrètement. Les deux postes principaux de dépenses sont l'alimentation et le personnel. Donc le personnel, c'est simple, on essaie d'employer le moins possible, vraiment le strict minimum et ce qui est prévu par les accords légaux avec le gouvernement. Et le deuxième poste, c'est l'alimentation. L'alimentation, moi, c'est quelque chose qui m'a révolté, oui. La qualité de l'alimentation, j'avais 4,35 € par jour pour nourrir une personne âgée dépendante, donc pour le petit déjeuner, pour le déjeuner, pour le goûter, pour le dîner et pour la collation. La collation, c'est avant le coucher, entre 21h et 22h.
Et comment on y arrive ?
Eh ben, on y arrive en servant des repas à un peu plus d'un euro. Ce qui donne une cuisine collective médiocre, voilà, avec des produits qui ne sont pas nobles, avec un minimum de choses fraîches, avec tout au rabais, c'est-à-dire le pain de mie le plus dégueulasse, l'huile d'olive la plus improbable, tout au moins cher, enfin tout acheté le moins cher. C'est quand on sait en plus à quel point les Français aiment la cuisine. Quand on sait à quel point ça coûte de l'argent de bien manger, malheureusement, c'est d'ailleurs une injustice sociale. Mais là, en l'occurrence, ce sont quand même des personnes qui dépensent au minimum 2 700 € par mois et qui mangent pour le reste de leur vie. Hein. C'est pas juste un jour par semaine. Hein. Des repas un peu plus d'1 €. Ça m'a fait de la peine, voilà, de voir des personnes âgées finir comme ça, surtout que parmi ces personnes, il y a beaucoup de femmes qui étaient de bonnes cuisinières, qui faisaient pas forcément de la grande cuisine, mais qui faisaient des choses qu'on a tous mangées, un bon beefsteak avec des pommes sautées, une salade verte, vous voyez, ce genre de choses qui peut être délicieux, mais qui coûte un minimum de sous. C'est particulièrement choquant parce que c'est un des derniers plaisirs du grand âge. Voilà, c'est ce plaisir de la table. Et quand on voit souvent les assiettes pleines, enfin les personnes qui touchent pas à leur assiette ou qui mangent peut-être parce qu'elles sont un peu démentes, ou donc on leur donne cette nourriture qui souvent est vraiment médiocre et on s'en fout. Parce que ce sont des vieux gâteux, entre guillemets, comme je l'ai entendu. C'est, pour moi, c'est vraiment profondément choquant. Et j'ai des images comme ça, j'ai le souvenir d'une... Moi, j'ai dormi les 6 premiers mois dans le premier EHPAD. Et le soir, j'allais au chevet de personnes seules, qui terminaient leur vie, qui étaient à quelques heures, quelques jours de la fin... Et je me souviens de cette femme, je cite cette scène dans le livre, qui, avant de mourir, me demande un dernier plaisir, comme un condamné. Elle était lucide, elle avait une reprise de cancer, et elle avait été bouchère à Montmartre, enfin à Ménilmontant, plus exactement. Elle avait servi Edith Piaf, elle était très fière de ça. Et elle me demande un bon beefsteak. Il était tard, je crois qu'il était, enfin, 21h, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, mais vous êtes sûr, hein? Enfin, j'étais vraiment surpris de cette demande. Et elle me dit, pas la cochonnerie que vous nous servez d'habitude. Je vais au Carrefour Market en face et j'achète un carpaccio charal. Vous couperez là. Et avec ça, je le coupe en petits bouts, je reviens. Et je lui donne, je me souviendrai toujours de cette scène qui est à la fois dramatique, à la fois magnifique. J'ai vécu un moment incroyable. Et je donne ces petits morceaux de viande crue, parce qu'elle m'avait dit saignant. Bien saignant. Comme si j'étais un cuistot, quoi, vous voyez. Et je me dis, mais comment je vais faire une... Parce que j'étais tellement bouleversé, il faut absolument que je trouve ce bon beefsteak. Et finalement, elle a pris ces petits morceaux de carpaccio, qu'elle a mangé avec ses, je me souviens du mouvement de ses lèvres, comme des bonbons, je crois. Elle est morte dans la nuit. Voilà.
Tournez à droite, 1049, rue Charles.
J'aurais bien voulu te prendre avec nous, comme autrefois, mais Suzy m'a fait comprendre.
Je me suis rendu dans un EHPAD en Seine-Maritime, la résidence Bouygues-Manoury située à Fauville-en-Caux. C'est l'un des 20 EHPAD sur 7000 en France labellisé Humanitude. C'est une technique de soins qui doit permettre une meilleure prise en charge des personnes âgées.
Tu verras, tu seras bien. Tu verras.
Bonjour madame, je suis journaliste à France Culture, j'ai rendez-vous avec Céline Poignant, l'infirmière.
Oui, bonjour. Bonjour,
je vais la prévenir, elle vous attend.
Il n'y a pas de souci, c'est gentil.
Elle va venir vous chercher.
Ok, merci.
Donc là, je vais vous proposer à toi de Mme Bretel, si elle est d'accord.
Bonjour. Je suis Céline, l'infirmière.
Oui.
Je viens vous voir pour savoir si vous vouliez un petit peu de l'aide pour votre toilette.
Peut-être, oui, vous voyez, oui, parce que ce que vous ferez,
ce est-ce que vous êtes
bien.
D'accord pour tout de suite?
Bah oui, il y a un truc que j'ai pu, mais enfin, c'est pas grave. Je perds la tête. J'ai des journées, sincèrement, non, ça me fait peur. Hein. Ça me fait peur. Il n'y a pas que je devienne folle.
Vous allez venir avec moi?
Oui, oui, hein, oui.
Je viens regarder ce qu'il y a dans la salle de bain.
Vous savez que je suis toujours. Il n'y a pas mieux qu'elle.
Je vais chercher une serviette et puis un gant de toilette.
Hein. Oui.
D'accord?
Oui.
J'allume la lumière?
Oui, oui, hein, oui, oui, oui. Là,
je mets ça sur le lavabo.
Ça tourne. Qu'est-ce que j'ai?
Oui, alors.
C'est assez fréquent qu'elles disent qu'elles ne se sentent pas bien. Mmh. Voilà. Donc en fait, là, moi, j'ai fait sa toilette, parce que je suis infirmière, donc je ne fais pas toutes les toilettes, pour réévaluer en fait ses capacités, ce qu'elle pouvait faire. Donc là, je vais refaire sa toilette, je vais rédiger sa toilette évaluative tout à l'heure. Et en fait, ça permet aux aides-soignantes de voir comment Madame Bretel se débrouille pour la toilette.
D'accord. Et là, vous l'avez trouvée comment ?
Oh bah là, beaucoup de capacités, elle est très souple, très très bien. Ouais. Il y a juste besoin de la guider un petit peu, de la stimuler. Bon, encore que la stimulation ça va, mais la guider en fait, parce qu'elle mélange un petit peu les parties du corps.
Donc voilà. Chercher,
mais ça s'est bien passé là.
Oui, 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 à part que bon, elle était pas très bien. Et elle sentait pas très bien.
Donc, d'accord.
Après, il faut revoir sur plusieurs jours si elle est pareille. Bon, après, j'avais une bonne tension, mais bon, c'est assez fréquent dans la journée, elle est souvent comme ça.
D'accord, mais elle risque pas de tomber, ou parce que là, on a l'impression qu'elle perd l'équilibre.
Oui, voilà, non, après, on surveille, on est là, puis la porte est ouverte, donc...
C'était content, j'avais gagné. Combien ?
14-8.
C'est bien ou pas bien ?
C'est bien.
Bon, merci.
Je vous dis à plus tard.
Oui, quand est-ce que vous venez me voir ?
Tout à l'heure, dans la matinée.
Oui,
d'accord.
Non, prenez votre temps. Si vous venez pas, vous venez pas. Mais s'il y a un problème, vous venez me dire que je me fasse pas de soucis.
Il n'y aura pas de problème. Bon. D'accord, je vais revenir tout à l'heure.
Oui,
voilà.
Prenez votre temps. Je vous remercie pour tout, à tout le monde.
Bien, donc nous accueillons cet après-midi Madame Agnès Buzyn.
Et il y a un sujet management en EHPAD. Quand je l'ai dit, je me suis fait taxer d'agression vis-à-vis des cadres. Voilà. Mais en réalité, il y a vraiment une hétérogénéité de la qualité des managers, ou peut-être un problème de formation. Mais,
Bonjour, je suis Sylvie Schrum, directrice des EHPAD de Fauville-en-Caux et Grinville-la-Teinturière.
Alors, Madame la directrice, votre établissement est labellisé Humanitude. On vient d'ailleurs d'assister à un soin avec votre infirmière. Qu'est-ce que l'obtention de ce label représente ?
Un gage de qualité, un gage d'accompagnement dans une philosophie de respecter l'homme debout et de respecter le choix des résidents, de les accompagner le plus possible dans ce qu'ils souhaitent et dans ce que l'on peut faire de mieux dans le respect de la personne.
D'accord. Et pour ça, il faut être automatiquement labellisé pour traiter les personnes comme ça, ou on peut le faire même sans le label ?
Heureusement, on le fait sans le label, mais le label nous apporte d'autres techniques qui confortent dans ce qu'on fait normalement, ne serait-ce qu'entrer dans la chambre de la personne qui est sa maison. Eh bien, oui, on toque à la porte et souvent, on rentre. Et là, on apprend vraiment à attendre d'être invité à rentrer. On demande à la personne de nous dire si, effectivement, elle est d'accord pour un soin. On ne fera pas de soin contraint, on va reporter le soin, il sera fait un petit peu plus tard. On essaye de tenir nos résidents debout le plus longtemps. Tous les jours, tout le monde est levé, sauf prescription médicale, bien entendu, si la situation impose de rester alité et de vraiment aller jusqu'au bout en gardant le maximum de capacité, de capacité de la personne tout en l'accompagnant dans les gestes du quotidien.
Il y a un véritable bienfait pour les résidents ?
Oui, on a des évolutions qui sont très positives parfois de personnes qui rentrent avec des difficultés et qui on arrive à redonner de l'autonomie. Ça prend beaucoup de temps et il faut aussi des bras et des personnes. Il y a quand même besoin d'un certain nombre de personnel effectivement pour pouvoir aller au bout de cet accompagnement, même si au quotidien les professionnels s'investissent pour au maximum donner tout ce qu'on doit donner à nos résidents.
Céline Poignant, vous, en tant qu'infirmière, qu'est-ce que ça change de travailler en humanitude ?
Alors moi, quand j'ai commencé, j'ai pas eu la formation humanitude. Quand j'ai fait la première fois la formation, c'est une très très grosse remise en question au niveau du travail, parce que c'est vrai que on doit prendre en considération la personne comme un être humain, parce qu'en tant que professionnel humain, on les prenait en compte, mais pas suffisamment en fait. Et c'est vrai que la formation humanitude, ça nous permet de revoir tout ça, de se remettre en question, de bien parler aux gens, de les respecter, et puis Après, l'humanitude, c'est prendre aussi de faire attention à toutes les capacités des résidents, de la personne âgée, sans prendre forcément la pathologie. Hein. Ça peut être quelqu'un qui a fait, par exemple, un AVC et qui peut quand même marcher. Vous voyez, c'est pas parce qu'elle a fait, elle a une hémiplégie que non, elle ne marchera plus. C'est pas du tout ça. On voit la capacité des gens.
Sylvie Schrub, l'humanitude, c'est une chose, mais est-ce que vous avez assez de personnel dans votre établissement pour bien la mettre en œuvre ?
Alors, si on parle en ratio, ce qui est donné dans les rapports, nous, on est à 0,49, ce qui est pas si mal que ça au regard d'un certain nombre d'établissements, mais pas suffisant.
Bien comprendre, 0,49, ça fait un demi-soignant pour un résident.
Voilà, un pour deux. La demande du 1 pour 1, nous, ne nous semble pas forcément indispensable, mais en tout cas, d'avoir plus effectivement entre 0,60 et 0,80 permet vraiment d'avoir un nombre de soignants pour pouvoir aussi prendre le temps. C'est ce qui ressort dans tout ce que l'on peut lire actuellement. C'est le manque de temps, et le temps est un facteur important pour l'autonomie de la personne, puisque pour l'accompagner, ne pas faire à sa place, mais il faut avoir le temps d'être présent et de l'aider à faire seul.
Même question, Céline Poignant, vous avez l'impression d'être assez nombreux au contact des résidents ?
Alors, la question. Alors forcément, on serait plus, on ferait de plus belles choses, encore plus belles. Après, sous-effectif, oui, il y a quand même un manque de personnel au niveau des soignants. Le temps que j'ai pris pour cette dame-là, mes collègues étonnantes ne peuvent pas forcément le prendre. Alors après, elles ont eu la formation humanitude, donc elles travaillent quand même en humanitude. Voilà, après, elles vont pas prendre autant de temps.
Mmh, ouais, ce soin-là auquel on vient d'assister, il a duré combien de temps à peu près ?
T'as commencé, c'était 9h15, une demi-heure, trois quarts d'heure ?
C'est ça, c'est un temps classique, c'est plus court, c'est quoi ? C'est un quart d'heure, 20 minutes ?
Un quart d'heure, 20 minutes, oui. Ouais.
Il y a moins de risques de maltraitance avec la technique de l'humanitude ?
J'espère. Ah bah oui, c'est vraiment... Ah oui. Enfin, après, quand on sait pratiquer, quand on respecte les gens, enfin, on a un beau métier, quoi. Voilà. Et puis, on est là pour les résidents, on est là pour les satisfaire. Moi, je sais que quand je fais une toilette et je sens que la personne n'est pas bien, je vais rentrer chez moi, je ne vais pas forcément être bien, je vais me dire, bah, j'ai pas bien travaillé. Alors que quand on prend son temps, on a la satisfaction de bien faire son travail.
Alors, il faut le préciser, Sylvie Schrub, le label Humanitude, il se traduit aussi par une ouverture de votre EHPAD sur le monde extérieur. En quoi est-ce important ?
Alors, l'ouverture sur l'extérieur, c'est très important parce que les résidents aiment la vie sociale. C'est pas parce qu'ils rentrent chez nous qu'ils n'ont plus de vie sociale. Et l'école, la crèche, tout ce qui est intergénérationnel est très important. Soit les résidents vont à la crèche, soit les enfants de la crèche viennent. Les enfants de l'école, on fait des semaines du jeu et on a aménagé devant l'établissement une aire de jeu. Ça met de la vie, ça ne reclut pas les personnes dans un lieu où on est entre soi avec ses problématiques. Et ça fait connaître aussi l'établissement au travers de ce que les enfants peuvent rapporter aussi à leurs parents, à leur famille, à leurs amis.
En tout cas, il faut aller dans ce sens-là pour l'avenir maintenant.
Bien sûr. Tout à fait. On doit vivre ensemble, quelle que soit notre tranche d'âge, nos difficultés, l'inclusion des personnes handicapées. C'est vraiment le vivre en général ensemble et ne pas cloisonner les différentes catégories de personnes dans leur mode de vie.
Globalement, Céline Poignant, vous les sentez heureux, vos résidents ?
Alors, je les sens heureux, oui, mais je pense qu'ils seraient beaucoup mieux chez eux, enfin pour eux, voilà. Au début, on sent quand même qu'ils sont malheureux, c'est comme un deuil, hein, à mon avis, voilà. Mais après, bon, bah, ils sont dans l'institution, voilà.
Je n'ai pas fini, voler, chanter, partir, repartir, souffrir, aimer,
Entrez.
Je l'aime sans...
Entrez.
Le temps qui reste.
Je vais commencer par prendre votre prénom.
D'accord. Yvette.
Yvette. Bon, ça fait combien de temps que vous êtes ici ?
Alors, on est arrivé en février. Ça va faire 3 ans au mois de février.
D'accord.
Avec mon mari.
Ah, tous les deux?
Oui, oui, on est là tous les deux. Moi, j'ai toujours été dans cette chambre-là. Et mon mari est dans la chambre un petit peu plus loin. Il se rapprochera quand il y a des personnes qui vont partir, mais bon.
Et vous êtes là avec votre chat aussi?
Oui, oui, ah bah oui, mon mari, s'il n'avait pas son chat, je crois que... Oui. Ah, le pépère.
Et avant, vous étiez où avant?
À Grand-Camp.
D'accord.
Oui, sur une ferme. Et puis, forcément, mon mari a du mal à marcher. Avec son déambulateur, il ne pouvait pas sortir dehors. On était obligé d'avoir quelqu'un qui venait le matin pour le lever et tout ça, et le recoucher le soir. Mon mari va avoir 93, et moi je vais avoir 89 au mois d'octobre. Mais j'en ai encore que 88, hein. Il faut le dire, hein. Voilà. Et donc on est arrivé là, et moi j'ai toujours été là, et voilà, et je me plais dans ma chambre.
C'est vrai?
Ah oui. Et puis on a beaucoup d'activités qu'à la maison, mon mari, il regarderait la télé, c'est tout. Hein.
Et ici, vous faites quoi?
Ah bah tout, toutes les activités. Là, je vais à la mémoire, mon mari y va aussi. Et puis cet après-midi, c'est la gym, bah oui. Le lundi, c'est le chant, il y a les activités manuelles, on fait plein de choses. Hier, c'était le goûter de printemps. Je vous dis, tous les jours, sauf le samedi et le dimanche, tous les jours, on est pris. Puis même, hein, moi, je fais des mots fléchés. Je fais tout ça, alors, vous savez. J'ai des mots mélangés aussi. Oui, il n'y a pas de problème. Je ne m'ennuie pas.
Donc, vous êtes heureuse, alors, ici?
Ah bah oui. Vous voyez, on n'arrête pas. Là, j'allais me coiffer pour aller à la mémoire. Ah et bah ça, la mémoire, je ferai tous les jours, ça. Ah oui.
Vous y faites quoi?
Ils nous posent plein de questions, hein. Et puis, ils nous montrent que, par exemple, aujourd'hui, je ne sais pas sur quel thème, mais la semaine dernière, c'était sur les oiseaux. Bon, ils nous mettent plusieurs sortes d'oiseaux. Il y en a 3, 9. Et il faut bien les répertorier. Et après, il faut les écrire. D'abord, il faut écrire ce que c'est. Et après, il faut redire. Alors, écoutez... J'en ai toujours 5, il m'en manque toujours un. Oh là là, mais bon, mais c'est sympa.
Ça n'a pas été trop difficile de partir de chez vous pour arriver dans un établissement voilà, qu'on ne connaît pas?
Non, parce qu'on a été bien accueillis et puis on connaissait déjà des gens qui étaient là, sans savoir. Deux cousins, un petit cousin de mon côté et mon mari avait un petit cousin aussi. Et puis finalement... Bon oui, on fait connaissance avec tout le monde. On aime bien tout le monde. Moi, j'aime bien les gens. Alors. Puis tout le monde est sympa quand même. Oui. Et je parle beaucoup avec les gens. Je les appelle par leur prénom. Comme ça, c'est plus sympathique que de dire madame. Hein, ils sont contentes. Et puis, non, tout se passe très bien.
Et puis c'est bien que vous soyez avec votre mari aussi.
Oui, aussi. Ah bah oui. J'allais pas rester toute seule sur la ferme. Imaginez que je tombe. Ah oui. Hein, déjà, je marche. Avec un déambulateur. Mais imaginez que je tombe, il faut embêter les enfants, il faut... Non, je ne serais pas restée toute seule, de toute façon. Non. Ou alors en ville, peut-être, avec des gens qui habitent pas très loin, vous savez. Mais c'est tout, quoi. Non, je suis bien mieux là.
Je veux parler jusqu'à la fin de ma voix.
Au revoir.
Je l'aime tant le temps qui reste.
J'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises.
Vous avez été parfaite.
Combien de temps? Combien de temps encore? Des années, des jours, des heures, combien?
Jean Arcelin, vous avez dirigé pendant 3 ans des EHPAD. Qu'est-ce que vous pensez des propositions qu'on entend en ce moment sur le grand âge?
Il faut que les élites se connectent avec la réalité. Il faudrait que M. Macron, que Mme Buzyn, fassent une visite en EHPAD la nuit, sans prévenir. Et là, voilà, ils font une nuit de l'EHPAD. Une nuit, c'est tout. Ils rentrent et ils voient ce qui se passe. Voilà. C'est ça que je conseille. Et pas, on va venir à telle date, de telle heure à telle heure. Ça va bien se passer, ce sera sympa, on va mettre des petites mamies, tout le monde sera... Voilà, il y aura un sureffectif. Et on verra que du feu, on dira, ah, mais les EHPAD en France, c'est magnifique.
Seul avec mes patients, on est vraiment au bout du rouleau. On crie à l'aide, mais jusqu'à quand? Balayer, astiquer, habiller, soigner nos patients à la bourre chaque jour. Pour tout ça, on gagne plus d'argent.
Chez soi ou en EHPAD, vieillir dans la dignité, un reportage de Maxime Fayolle avec Emmanuel Faucillon à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
L'invité de Grand Reportage est Dominique Libaud, auteur du rapport issu de la concertation Grand Âge et Autonomie. Dominique Libaud, Jean Arcelin, qu'on vient d'entendre, invite Emmanuel Macron à venir une nuit à l'improviste dans un EHPAD. Comment s'effectuent aujourd'hui les contrôles et est-ce qu'on peut les améliorer?
On peut certainement améliorer les contrôles, effectivement. D'ailleurs, peut-être plus facilement en EHPAD qu'à domicile, parce que là, on parle de l'EHPAD, mais finalement, la maltraitance, elle peut aussi arriver à domicile. Et ça, c'est peut-être encore plus compliqué en termes de contrôle. Ce qui veut dire aussi que il n'y a pas que le contrôle, il y a aussi se donner les conditions qu'il y ait une prise en charge de la qualité de façon beaucoup plus systématique, parce que ce qu'a très bien dit le reportage, c'est l'hétérogénéité des situations. Il faut pas décrire la situation comme uniquement, effectivement, partout indigne, mais il y a des choses effectivement qui ne sont pas acceptables, et il y a des choses très bien à côté. Donc le sujet, c'est d'améliorer la qualité. Le contrôle peut être un des éléments. Je pense pas que c'est l'unique élément. On a aussi, je pense que vous avez posé la question, mais parler du management, on voit bien, effectivement, que quand il y a un management qui tire vers l'autonomie, le respect de la personne, etc., ben ça fait énormément. Donc c'est un tout, et les conditions de travail, évidemment, sont un élément essentiel. Donc je pense que c'est un système, effectivement, qu'il faut changer pour mettre en place les conditions d'une prise en charge de qualité de nos aînés, où que ce soit, en établissement et à domicile.
Mais alors, le label Humanitude qui était évoqué dans le reportage concerne, je crois, une vingtaine d'EHPAD aujourd'hui, ça fait vraiment pas beaucoup. Comment est-ce qu'on peut généraliser les bonnes pratiques?
C'est une très bonne question, parce qu'il y a des bonnes pratiques et elles sont pas suffisamment généralisées. Alors d'abord, on peut essayer de populariser, c'est la belle, peut y en avoir d'autres, mais c'est vrai que moi j'en parle aussi dans le rapport, je trouve que c'est effectivement très bien, et qu'il faut s'inspirer de cela, donc il faut donner envie à plus d'équipes d'aller vers ce genre de pratiques. Par ailleurs, a été missionnée la Haute Autorité en Santé pour préparer une certification des établissements qui va être aussi une forme de labellisation qualité, si vous voulez. Donc voilà, il faut aller vers et aller spontanément de soi, ne pas attendre effectivement le contrôle, quoi, parce que voilà, c'est si on le fait uniquement parce qu'il y a le contrôle, etc. Bon, voilà, ils vont pas être dans une société exclusivement du contrôle, il faut le dire, parce que tout simplement on va avoir un management d'équipe qui va être bien meilleur, on va motiver les gens, on va avoir moins d'absentéisme dans les établissements humanitaires, il y a moins d'absentéisme, on a parlé de l'absentéisme, évidemment c'est une catastrophe, il y a moins de turnover. Ce qui était très très bien exprimé dans le reportage, c'est la qualité de la relation qu'il peut y avoir entre un soignant et une personne âgée. C'est ça qui est fondamental et qui valorise aussi extraordinairement le travail d'aide-soignant. Si vous êtes dans un turnover, il ne peut pas y avoir de qualité, pas de relation, pas de confiance. Il peut y avoir d'agressivité parce que effectivement la personne n'est pas en confiance et ensuite le travail n'est pas très intéressant. Donc voilà, on peut avoir le meilleur et on peut avoir des choses pas du tout intéressantes. Donc c'est évidemment toute une action qu'il faut faire pour aller vers cette prise en charge de qualité type humanitude.
Et se sentir chez soi dans un EHPAD, est-ce que c'est possible?
Eh bien, c'est tout un sujet et on le porte beaucoup aussi dans le rapport et dans la préconisation que nous faisons au pouvoir public, parce que c'est une demande très forte. À la fois, si on peut rester à domicile longtemps, c'est évidemment très bien. Il faut souvent accepter aussi d'anticiper un peu, parce que comme ça a été dit, ben si on est un peu dans le déni, ce qui peut être le cas de chacun d'entre nous, d'attendre au dernier moment et se dire ah ben là ça va encore, etc., puis tout d'un coup on se rend compte ah non ça marche plus, mon logement n'est pas adapté, tout ça, ben c'est dans l'urgence qu'il faut prendre des décisions, c'est pas terrible. Donc il faut accepter, et on propose des bilans anticipés pour adapter son logement, prendre les bonnes décisions. Mais pour certaines personnes, à certains moments, c'est vraiment compliqué. Alors, il peut y avoir des solutions intermédiaires, parce que vous avez appelé l'émission EHPAD ou domicile. Demain, peut-être, le sujet, c'est justement de sortir de ce choix binaire.
Puisqu'il y a d'autres alternatives,
évidemment,
en réalité.
Et de proposer tout le rapport, c'est d'essayer de proposer autre chose, justement, de dire, je pense que quand on interroge les générations plus jeunes, qu'on leurs parents en EHPAD, qu'on leur demande, ils se voient très mal, ni dans l'isolement chez soi tout seul, ni dans l'EHPAD tel qu'il est dans trop d'endroits au jour d'aujourd'hui. Donc il faut favoriser des alternatives, des cohabitations groupées, des résidences services, des résidences autonomie, des tas de choses qui peuvent être imaginées. Mais même dans l'établissement, il faut avoir ce qu'on appelle cette vision domiciliaire, c'est-à-dire de pouvoir dire, je ne suis pas simplement quelqu'un, un pion dans une collectivité, je suis moi, je continue à vivre ma vie, je continuer à vivre dans la vie, parce que ce que demandent les personnes âgées, c'est tout simplement de continuer à vivre leur vie et d'être dans la vie. Si on les isole, si effectivement elles sont mises à côté de la société et de leur propre vie, ben évidemment ça ne marche pas. Et donc il y a trop souvent un fonctionnement encore trop en collectivité, par exemple, pouvoir choisir un peu l'horaire de ses repas, de son petit déjeuner.
De son réveil.
Le moment, effectivement, où on est prêt pour revenir faire la toilette et pas dire, effectivement, bah, c'est là, et puis si vous n'êtes pas prêt, etc. Voilà, donc il y a des tas d'éléments. Et du reste, ce n'est pas inenvisageable. La mission que je pilotais s'est déplacée notamment dans des pays étrangers. Quand on va en Suède, par exemple, ou au Danemark, eh bien, on voit ça dans les établissements. Il y a tout ceci. Et donc, on propose aussi une charte aménagée de la vie de la personne en établissement pour donner plus de place au chez-soi, même en établissement.
Mais donc, cette prise de conscience, elle passe évidemment par un travail de management et par une formation du personnel qui intervient auprès des personnes âgées pour qu'elles soient justement à l'écoute du projet de vie de la personne. Et pour qu'elle soit respectueuse de sa liberté de choix, qu'elle fasse attention à...
Tout à fait. En fait, il y a deux éléments, mais ça ressort là aussi très très bien du reportage, hein, vraiment, c'est à la fois les conditions de travail et suffisamment de personnel et le management. Il ne faut pas dire que la solution, c'est uniquement l'un ou l'autre. Ce n'est pas uniquement le management. Et s'il n'y a pas suffisant de personnel, pour avoir le meilleur management du monde, ben, ça ne fonctionnera pas parce qu'effectivement, c'est un type d'activité sur lequel les processus de rationalisation de productivité, ben, ils sont assez minces quand même. Enfin, disons... C'est de l'humain et c'est du temps humain. Donc, il faut accepter ce temps humain. Donc oui, il y a besoin de temps, mais effectivement, c'est pas non plus uniquement le fait qu'il y ait beaucoup de personnel qui va permettre une bonne prise en charge. C'est aussi le management et la formation. Donc c'est tous ces éléments qu'il faut mettre en place pour changer la façon de prendre en charge nos personnes âgées et pouvoir aussi, peut-être ce qui a peut-être pas été évoqué, mais retarder la perte d'autonomie ou diminuer la perte d'autonomie, parce que heureusement, le sort de toutes les personnes âgées n'est pas forcément de tomber dans la perte d'autonomie. Il y a, et on le dit beaucoup aussi dans le rapport, des perspectives d'améliorer l'autonomie des personnes âgées. On n'est pas si bon que ça en France par rapport à d'autres pays.
On est même assez en retard, on peut le dire en termes de prévention.
On peut le dire, effectivement, sur l'espérance de vie en bonne santé. Et donc, on a des efforts à faire. Et si on s'y prend bien, si on fait de la prévention, si on a ces formations, etc., on peut vivre en maintenant un certain nombre de fonctions cognitives, motrices, etc., le plus longtemps possible pour un grand nombre de personnes. Voilà. La perte d'autonomie peut aussi arriver, naturellement.
Qu'est-ce que c'est, par exemple, justement, en termes de prévention? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est recommandé de continuer de bouger, c'est alors, les
bien
activités
sûr.
Physiques, c'est ce genre de choses-là.
Oui, il y a la prévention très anticipée, hein, parce que les gériatres vont vous dire bah, il faut commencer tôt, voilà, c'est pas à 75 ans qu'il faut commencer à s'occuper de prévention. Donc effectivement, les générations de 50 ans, même avant, oui, c'est maintenant, c'est les conseils habituels effectivement, de bouger, effectivement, faire du sport, faire de l'activité, éviter les pratiques alimentaires à risque, etc. Donc oui, tout ça compte énormément, stimuler l'activité intellectuelle aussi, et puis ensuite c'est tout au long du parcours de vie de la personne qu'on peut toujours faire de la prévention, et y compris on insiste, nous dans le rapport, sur un moment qui peut être compliqué pour la vie de la personne, c'est le passage à l'hôpital, parce que le passage à l'hôpital peut accroître la dépendance. Par exemple, si vous êtes dans un service spécialisé, vous êtes accueilli pour un problème pathologique cardiovasculaire ou cancer, etc., et puis on ne s'occupe pas de votre autonomie, il n'y a pas assez de monde, etc., et ben vous risquez de ressortir plus dépendant, peut-être effectivement mieux sur votre sujet pathologique, mais plus dépendant. Donc la prévention, c'est à tout moment, à tous les niveaux, et en EHPAD, effectivement, quand on y entre, ça continue effectivement la stratégie de prévention. Du reste, personne parlait d'atelier mémoire. Ben on est en plein, évidemment, dans une stratégie prévention. Et toute cette vie, tout simplement, être aussi dans la vie avec les autres, on voit bien que s'il n'y a pas de stimulation, ben vous risquez effectivement très rapidement de perdre votre autonomie. C'est le risque quand on arrive dans un établissement, on était chez soi, on était quand même... Ben, il fallait s'occuper de soi, etc. Si vous n'avez plus rien à faire et vous n'êtes pas stimulé, oui, vous risquez de perdre des capacités assez rapidement. Alors que si c'est l'inverse, et ben vous pouvez maintenir vos capacités.
Donc on en revient justement au fait qu'il faut avoir suffisamment de soignants, suffisamment disponibles, qui ont donc du temps, qui sont à l'écoute. De quelle manière est-ce qu'on arrive à avoir ces soignants suffisamment formés, motivés Alors qu'aujourd'hui, ils sont quand même...
Oui, alors nous disons le constat qui est le plus alarmant et que, sur lequel nous disons c'est la priorité numéro un, c'est le sujet des métiers, effectivement, du grand âge. Parce qu'aujourd'hui, il y a un risque fort de manque d'attractivité, que nous manquons demain de personnes pour s'occuper de nos aînés. Et on sait tous aussi qu'il va y avoir une augmentation démographique hein, des personnes du grand âge dans les années à venir. Donc c'est très préoccupant et il faut redonner de l'attractivité à l'ensemble de cette filière grand âge. C'est pour ça que nous avons préconisé à la ministre, et je suis très heureux qu'elle ait tout de suite rebondi là-dessus, un grand plan métier, de dire il faut faire un plan métier, ce plan métier pour redonner de l'attractivité, de redonner envie de travailler sur les formations, mais travailler sur le parcours professionnel. C'est quoi aussi les perspectives lorsqu'on devient être soignant? Est-ce qu'on a des perspectives où on se peut rester pendant des dizaines d'années être soignant? Il faut construire des parcours professionnels, il faut travailler sur les conditions de travail, il faut travailler donc aussi sur combien on est, et nous proposons d'améliorer de 25% les effectifs de soignants en établissement. C'est, nous semble, très important, parce que c'est parce qu'on améliore aussi les conditions de travail qu'on va retrouver d'attractivité et de la capacité à travailler autrement et à faire le travail le plus intéressant pour la personne. Et comme l'auxiliaire de vie qui disait si bien et qui était heureux de la formulation de son métier, auxiliaire de vie, il avait bien raison, ben, qu'on puisse permettre aux personnes d'être vraiment des auxiliaires de vie.
Mais donc, Dominique Libaud, en 2017, la France comptait 1,3 million de personnes âgées en situation de dépendance. En 2050, on pense qu'elles seront 2,2 millions. Il faut, comme vous le dites, anticiper, mettre en place des solutions et trouver des budgets correspondants. Vous avez chiffré à plus de 9 milliards d'euros le besoin de financement supplémentaire d'ici 2030. Vous croyez vraiment possible de mobiliser ton argent ?
Oui, tout à fait. D'abord, il faut bien voir que c'est d'ici 2030, donc 9 milliards, on ne dit pas ça immédiatement. Ça correspond à augmenter de 1,2% de la richesse nationale à 1,6% ce qu'on consacre aux personnes âgées. Et il faut rappeler que l'ensemble de la protection sociale dans notre pays, aujourd'hui, ça occupe 34% de la richesse nationale. Donc, en fait, ça veut dire que dans les dépenses de protection sociale de la France, il faudrait que la part pour les personnes âgées passe de 3% à 4%. Eh bien, c'est pas du tout inenvisageable sur 10 ans. Il faut simplement être très constant dans l'effort, le programmer, éventuellement utiliser des recettes qui peuvent venir, et nous proposons notamment d'utiliser une partie de la recette de remboursement de la dette sociale qui devrait venir à échéance en 2024, parce que nous allons finir, et c'est une bonne nouvelle pour la France de rembourser la dette sociale, donc c'est une bonne nouvelle, et une partie pour être réutilisée pour financer le soin aux personnes âgées. Donc oui, et c'est absolument indispensable, en revanche, de commencer maintenant et d'avoir une politique très constante sur ce sujet.
Et vous vous sentez entendu là-dessus ?
En tout cas, d'abord, ce rapport a été commandité par les pouvoirs publics, donc je pense qu'ils sont tout à fait préoccupés du sujet. Il y a eu des phrases très fortes du président de la République sur ce sujet. Et la ministre, quand elle a reçu le rapport, a effectivement tout de suite rebondi en disant « je vais préparer une stratégie nationale sur ce domaine ». Donc oui, je pense qu'une stratégie est effectivement en cours de préparation. Attendons de voir évidemment les mesures et comment cela va être pris. Évidemment, il y a une difficulté de financement dans la mesure où on ne souhaite pas augmenter les prélèvements obligatoires. Et d'ailleurs, nous ne le proposons pas dans le rapport parce que nous ne pensons pas que ce soit opportun à ce moment donné. Mais nous proposons un certain nombre de pistes qui peuvent permettre de faire face à ce qui est un vrai défi pour notre société.
Et vous pensez que pour changer d'image, les EHPAD devraient aussi changer de nom ?
Oui. Absolument. Enfin, c'est évidemment, il faudrait pas que ça se résume à ça, mais oui, aujourd'hui, établissement de personnes âgées, effectivement, hébergé pour la dépendance, c'est pas terrible. Et puis, ce mot est devenu aujourd'hui connoté, il faut bien dire. Donc, oui, nous proposons des maisons du grand âge, aux maisons des seniors médicalisés. Alors là, nous offrons effectivement à l'ensemble de la population d'ailleurs de faire des propositions sur le sujet. Mais je crois qu'il y aura un accord dans la concertation. Personne ne souhaitait particulièrement conserver cette dénomination.
Merci Dominique Libaud. Chez soi ou en EHPAD, vieillir dans la dignité, un reportage de Maxime Fayol avec à la réalisation Emmanuel Faucillon et Emmanuel Morse-Duncan à la technique. Vous pouvez réécouter et podcaster Grand Reportage sur franceculture.fr où vous trouverez également bibliographie et informations complémentaires. C'était une rediffusion du 24 avril 2019.